Merci de votre présence. Je voudrais remercier beaucoup Sia Véronique Aïssaï, Pierre-Louis Duvas et Jean-François Bordron d'avoir accepté l'invitation de participer à cette séance aujourd'hui. Dans le présent exposé, je voudrais présenter quelques réflexions que je développe dans mon travail de thèse sur les partitions graphiques. Je commence avec une différence de base qui serait peut-être une définition provisoire des partitions graphiques pour la raison que ce sont des objets pas très connus. Vous avez un exemple dans l'image du fond que j'utilise comme titre et que les types de notations et les motivations pour les utiliser peuvent varier beaucoup, même entre des auteurs proches comme ceux de l'école de New York. Donc, une partition graphique s'agit d'un type de notation qui se propose à interroger les enjeux qui accompagnent le développement de l'écriture musicale au XXe siècle et en particulier la validité et l'efficacité d'un déterminisme extrême dans l'acte compositionnel. En faisant recours à des analogies visuelles ou verbales ou de façon plus générale à des images pour obtenir une réponse musicale de la part de l'interprète. Selon Musa, je cite, l'image son symbolise la création d'un nouvel espace pluridisciplinaire d'échange, c'est-à-dire, elle pose le problème de la communication, qu'elle soit multidirectionnelle ou monocentriste. C'est le cas dont le compositeur exécute ou lit son œuvre. Monocentriste. De cette façon, on observe qu'une partition graphique propose d'une part une nouvelle approche technique du matériau, de la forme et du mode d'exécution et d'autre part une nouvelle approche sur le plan des interactions entre les acteurs du discours. Par rapport aux questions liées à l'approche technique, si on compare avec la notation conventionnelle, on peut observer des différences variables concernant notamment une discontinuité dans la représentation des paramètres de la musique, la linéarité de la lecture et la neutralité du support. J'exemplifie avec l'image des dernières mesures de la suite lyrique d'Alban Berg, écrite en 1925. Ici, la représentation des auteurs et des durées a encore un caractère discontinu, à l'exemple des coordonnées cartésiennes dont l'axe vertical détermine les auteurs et l'axe horizontal les durées. La lecture se fera aussi de la droite à gauche, dont la linéarité est aussi présente dans la lecture. En même temps, on peut déjà observer une utilisation de l'espace du papier pour représenter un des composants de la musique, qui est le silence, ou le passage au silence de chaque instrument. Donc d'abord le deuxième violon, après le violoncelle, après le premier violon et l'alto, il reste jusqu'à la fin. Il y a dans ce cas une question de degré, cela veut dire une tendance à utiliser des recours plus ou moins visuels. À cet exemple, on peut ajouter les dernières mesures du Quatuor opus 18, numéro 3 de Beethoven. Une chose très intéressante chez Beethoven est qu'il est un des premiers, peut-être même le premier compositeur, à ajouter des mesures composées entièrement de silence à la fin de ses pièces. Ici. Je cite un exemple parmi plusieurs d'autres qu'on peut trouver chez Beethoven entre 1885 et 1800. Donc, en plus des influences possibles entre ces deux compositeurs, je me demande quelle différence on peut trouver entre noter le silence avec le blanc du papier, ici, ou avec des figures de silence, comme un demi-soupir ou des points d'orgue dans un moment de la musique dont on n'attend plus de notes. Donc, comme point de départ de ma recherche en sémiotique, J'ai trouvé en 2011 sur Internet et après Alina un entretien datant de 1986 d'Ajuda Grimas dont il parle de la sémiotique musicale. En particulier, une des dernières questions traitées par Grimas est liée au problème de la visualité de la notation. Donc, une chose qui était très vivante à la première moitié de ce siècle, à partir de 1900, c'est ce qu'on appelait la correspondance des arts. On se demandait comment peut-on établir des comparaisons et en quoi. Est-ce qu'il y a une écriture musicale qui serait comparable, qui serait traduisible en visualité? Par exemple, la musique moderne ne trouve plus de notation adéquate et la notation devient de la peinture également. Alors, la réponse de la sémiotique pourrait être un peu en dehors de ces problèmes de surface. La réponse est hermeslévienne. Le signifiant est articulé par des formes qui sont comparables aux formes par lesquelles s'articule le signifié. En ce qui concerne à la forme et à l'articulation du signifiant et du signifié, la possibilité de comparaison entre la notation et la composition musicale nous semble encore renforcée par la citation suivante du compositeur anglais Cornelius Cardew. Notation et composition déterminent l'une l'autre. Une notation musicale est un langage qui détermine ce qu'on peut dire et ce qu'on veut dire détermine également ce langage. Comme un compositeur, vous avez ces deux aspects dans votre main, mais quand vous ouvrez la main, vous trouvez une seule chose pas divisible. En effet, on voudrait citer comme exemple les grands développements de la polyphonie et des techniques de contrepoint à partir de l'utilisation de la portée et de l'écriture de notes carrées après la fin du Moyen Âge. Dans ce même sens, John Cage déclare que « Je ne compose pas pour exprimer quelque chose que j'ai entendu, mais pour en entendre. » Enfin, à partir d'une recherche analytique par rapport à la représentation du son et du silence et les relations qu'il établit entre le visuel et le visible dans la notation musicale, on voudrait proposer un retour de la notation vers la technique afin de répondre à la question. Pourquoi un compositeur décide d'utiliser la visualité d'une notation pour écrire sa musique? Donc, une des hypothèses de ma recherche part de la notation, part de la notion de la présence, de la cursivité et de la récursivité réfléchie dans les différentes instances d'un texte graphique. Pour introduire la question de la récursivité, je voudrais citer un passage de Paul-Klee dans la théorie de l'art moderne à propos de la production et de la réception de l'art. Donc, selon Paul-Klee, l'ouvrage se forme pierre sur pierre, addition, ou à partir du bloc, morceau par morceau, soustraction. Les deux démarches, l'édification et l'extraction, se déroulent dans le temps. Dès le début de l'action productrice, peu après le mouvement initial de production, intervient déjà le premier contre-mouvement, le mouvement initial de réception. Autrement dit, le créateur évalue ce qu'il a fait jusqu'alors. Donc, action humaine, genèse, l'œuvre, qu'il s'agisse de production, de réception, est mouvement, durée. Donc, j'ai essayé d'obtenir un schéma pour représenter ce mouvement. C'est une proposition de schéma. Comme des exemples de cet aller-retour du créateur à l'objet de création, on peut citer le contact avec le tableau et la distance du peintre pour regarder son travail de temps en temps. Je vous donne ici un exemple de proximité et distance par rapport à un autoportrait de Van Gogh. Donc, il y a des allers-retours au moment de la création. Ou encore de plusieurs esquisses de Beethoven pour une même pièce. D'autre part, selon Paul-Klee, cet échange se représente aussi dans l'œuvre, une fois que l'œil suit le chemin qui lui ont été ménagés dans l'œuvre. Ou en d'autres mots, l'œuvre va registrer toujours un regard, une écoute, un mouvement de la perception. En ce qui concerne la notation graphique, on peut dire que la possibilité même d'un échange ira caractériser une bonne notation. Je cite John Cage, une bonne notation est celle qui marche. Fin de citation. Cela veut dire, une bonne notation, c'est celle qui s'en sert, qui produit et résulte d'une durée, d'un mouvement créateur. Nous avons ainsi les prémices pour la caractérisation de l'œuvre comme productrice et résultante d'un mouvement, d'une durée. À la présence de la récursivité, Claude Zieberbeck ajoute l'instantanéité de la cursivité caractéristique, par exemple, de la technique de la touche de Van Gogh, qui démontre la préoccupation de traiter la forme et l'affect ou le mouvement du sensible comme une sorte de forme affect. Cela veut dire une forme mouvante. On voudrait remarquer que l'expression forme mouvante peut s'identifier, selon Benveniste, à la propre définition étymologique du rythme. Cela veut dire à une manière particulière de fluer. À la cursivité, on associe donc une promptitude propice à la fixation de l'instant en opposition à la construction de la forme avec des allers-retours vers l'œuvre. La cursivité se caractérise aussi par un accent rythmique. Donc, on propose de représenter ces relations dans les tableaux suivantes, qui on peut visualiser aussi sous la forme d'un schéma tensile. Donc, il y a une tension, une alternance rythmique entre ces deux moments qui représentent des accents et des inaccents perceptifs et qui rendent possible un échange entre les moments de création et de réception de l'œuvre. Cette même alternance, cette valorisation du rythme, peut être observée dans l'écriture chinoise, considérée aussi comme un art musical. Le moment de l'écriture et les variations qu'on peut observer dans les types de calligraphie, traits déliés ou concentrés, sont également une interprétation du contenu du texte. Je vous donne ici l'exemple d'un haïku et la calligraphie à côté. Donc c'est plus proche d'un mouvement pas régulier comme ça. Donc il y a plusieurs types. Il y a deux variations de cet aller-retour qui caractérise le type de trait. À partir de cet exemple, je voudrais passer à deux œuvres de John Cage et une troisième de Morton Feldman, donc deux compositeurs de ce qu'on connaît comme l'école de New York. Donc, je voudrais commencer avec. Comme premier exemple, je voudrais montrer la partition de la première exécution de l'œuvre 0 minutes 0 secondes de John Cage. Le premier manuscrit de l'œuvre est considéré aussi comme sa première interprétation et contient une seule phrase. Dans une situation avec le maximum d'amplification ou pas, acte. Donc, on peut considérer ainsi la cursivité comme le moment de passage ou de tournage entre ces deux moments, la production et la réception, et comme caractérisé par l'action. Acte. D'autre part, la récursivité intervient comme une résonance, plus ou moins amplifié à ce premier moment. Après cette première exécution de l'œuvre, il y a eu plusieurs esquisses qui ont donné origine à la partition finale avec des indications d'exécution. Donc, on rentre à la première phrase de John Cage. Donc, ces deux états caractérise le mouvement minimal nécessaire pour l'existence d'une œuvre d'art, de la même façon qu'une syllabe est constituée d'une attaque et de son prolongement. Donc, l'autre exemple sont le Seven Haiku de John Cage. les 7 haïkus qui sont inspirés dans la forme poétique des haïkus japonais, dont chaque un des 3 vers est représenté par une mesure. Une première chose qu'on peut observer est la notation de la portée en bas de la page, qui est occupée presque entièrement par les blancs du papier. La raison est que les dimensions de la notation suivent une notation proportionnelle à l'exemple de Music of Chains. Donc, au lieu d'une notation discontinue, des figures des notes, comme nous avons dans la notation musicale conventionnelle, Cage intègre la perception des durées à la représentation des autres paramètres de la musique. Pour cela, à l'exemple de Music of Chains, il n'y a pas d'indication de mesure et les durées sont indiquées par des grands nombres sur les lignes de la partition et la notation devient proportionnelle. Donc 2 cm et demi égale une noire. À partir de cette référence, toutes les autres figures ont une durée proportionnelle à l'espace occupé par les notes sur le papier. Comme conséquence, même que cette partition ressemble en plusieurs aspects à la notation conventionnelle, ici, il n'y a aucune référence rythmique directe, dans le sens que les durées sont liées à la proportion de l'espace du papier et que cet espace sera parcouru de façon différente selon les indications de tempo. Donc ici, il y a des indications de métronomique. Et pour arriver à un tempo plus vite, il y a des accélérandos qu'on doit parcourir en jouant ces notes, les notes qui sont écrites, pour arriver à le temps plus vite à la fin. Donc, de cette façon, l'attaque de chaque note, ici le Do, et après cet accord avec un Si qui va être soutenu, sera un résultat de l'état de tension de l'interprète au moment qu'il arrive à jouer les notes, à partir des accélérandos ou des ralentissements. Donc c'est une façon condensée d'écrire les autres paramètres. Les hauteurs, par rapport aux hauteurs, elles sont également très difficiles à identifier, dues aux dimensions de l'écriture qui sont très petites. Il y a même 4 moments de 7 haïkus dont l'interprète doit faire un choix entre ce qu'il peut lire. La chose la plus importante reste les indications métronomiques et les variations de tempo. Dans cet exemple, il y a un accélérando qui va jusqu'à la fin du premier haïku. On passe aux 2 pièces de Morton Feldman, Piano 3 Hands de 1957 et Piano 4 Hands de 1958. Donc je vous montre un extrait. Ces 2 pièces ont utilisé une technique d'écriture indéterministe à partir des imperfections du papier, à l'exemple de la série des 85 pièces de John Cage qui s'appelle Music for Piano. John Cage explique dans un passage la raison d'avoir choisi cette technique pour produire l'hasard. Donc certes, j'avais l'intention de continuer à travailler en consultant le I Ching, comme d'habitude, mais je cherchais à avoir une manière très rapide d'écrire un morceau de musique. Les peintres, par exemple, travaillent lentement avec l'huile et rapidement avec des aquarelles. J'ai regardé mon papier et j'ai trouvé mes aquarelles. Tout d'un coup, j'ai vu que toute la musique était déjà là. Donc, à l'exemple de John Cage, Morton Feldman détermine un intervalle de temps pendant lequel il va chercher des imperfections dans une feuille blanche et chacun de ces points deviendra une note. Le titre de la pièce détermine les 2 portées. Donc, four hands, c'est la clé de sol et la clé de fa. qui vont permettre de reconnaître les hauteurs relatives de ces notes, des imperfections. L'air duré reste libre et suit les indications, long et très léger. D'autre part, dans les indications d'interprétation, l'idée principale est que chaque note soit jouée de façon non relationnelle. Cela veut dire écouter d'une façon ponctuelle et indépendamment de la note précédente et de la note suivante. De cette façon, de la même manière que les imperfections de la feuille permettent de percevoir la matière du papier, ces notes ne sont pas liées entre elles, mais doivent ponctuer les silences. Donc, je passe à la conclusion. Comme un reflet du rythme propre à l'écriture et à l'exemple des gestes du pinceau dans la peinture chinoise, la notation rend possible de registrer une idée musicale selon les possibilités d'écriture liées à la présence de la cursivité et de la récursivité. On peut observer de cette façon une gradation entre les états de réception et de production exigés par l'interprète dans les œuvres Seven Haiku, Piano for Hands et 0 minutes 0 secondes. Dans l'œuvre 0 minutes 0 secondes, nous avons un état de production sensible maximal selon lequel l'écriture et la lecture de l'œuvre semblent se mélanger par une action unique. D'autre côté, la récursivité des Seven Haiku, aussi présente en Piano for Hands, nécessite de prendre distance et d'être constamment à l'écoute pour la compréhension des formes visibles. La tension entre ces deux modes construit un schéma rythmique qui conduira à l'interprète et lui fournira des pistes pour une lecture sensible. Comme résultat, l'interprétation sera responsable de rendre audible un geste visuel et de faire entendre l'acte même d'écoute par l'improvisation musicale. Donc, merci de votre écoute.
Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de commencer par de réfléchir aussi aux états limites pour voir un petit peu quelles sont les bornes de ce qu'on veut dire. Alors, peut-être y a-t-il des questions déjà dans l'auditoire sur un certain nombre de points qui ont été soulevés.
De partitions qui vont au-delà de ce que tu as montré, parce que finalement là il y a encore un petit peu le respect de la linéarité. On peut dire qu'on laisse à l'instrumentiste la possibilité de choisir du paradigme, hein, par exemple l'auteur par rapport à la durée qui en revanche est très bien indiquée dans la partition, etc. Mais il y a aussi je voudrais te demander que ce que tu penses par rapport à de partitions où on laisse vraiment le caractère allographique, on peut dire, de la partition, le caractère discret du trait, et on commence à construire des effets tableaux, finalement, comme par exemple les partitions de Sylvain Boussot, du tableau vivant, je ne sais pas si tu connais, cœur, etc. Il y a toute une expérience sur des partitions qui sont enfin des partitions picturales. Et donc, je voudrais te demander là, quelle est alors la relation, il semble que la relation devient de plus en plus forte, hein, entre les visuels, la densité du visuel et finalement l'interprétation des écoutants, de l'instrumentiste, qui est presque obligé à construire une sorte de traduction intersémiotique, hein? C'est-à-dire la partition devient un exercice, comme s'il y a une sorte de langage étranger par rapport à la musique, et les musiciens sont obligés à développer une sorte des réinterprétations, des récréations même, hein, de la composition à partir d'une notation qui ne semble plus au même niveau, hein, semble un peu, comment dire, totalement éloigné, hein, par rapport à,
oui. Bon.
À l'effet final.
Oui. Bon, je suis partie de ces partitions qui ont des relations, qui a une proximité avec la notation conventionnelle,
oui.
Parce que pour montrer le paramètre qui, je pense, à travailler la question de la linéarité, par exemple, qui change ici, par exemple, dans cette image,
oui.
On peut lire dans tous les sens,
oui.
Et ça donne plus de liberté, comme les partitions plus pratiques, normalement, elles ont un autre degré d'ouverture pour l'interprète. Et l'idée, c'est que ça soit une voie indirecte pour arriver à une nouvelle écoute du son. Donc, profiter les propriétés plastiques, vraiment, ici encore, c'est une sorte de passage, il y a deux degrés différents. Chaque partition, elle est. Peut-être que ça, c'est le cas extrême de partition plastique, parce que toutes les partitions, elles font des références, elles mélangent des fois les références de lecture que nous avons des autres types de notations. Donc, il y a des degrés entre ce qu'on connaît, entre ce qui est plus plastique. Et ces partitions plus plastiques, elles sont très ouvertes normalement à lecture, c'est plus ouvert. C'est tous les paramètres elles sont plus proches de la perception, peut-être, de la perception du rythme de lecture. Parce qu'elles sont plus continues. Normalement, on a possibilité de lire dans tous les sens. Il n'y a pas une implication linéaire pour la lecture. Et la question du support aussi. Donc, il y a une possibilité en plus pour exprimer le paramètre du son, pas le support.
Marina, petite question. Un peu pour rebondir sur ce que Pierluigi avait demandé, je me demande si il y a encore du contrôle, on peut encore avoir du contrôle sur l'exécution, effectivement, de ces partitions, ou si elle est vraiment laissée à la, entre guillemets, liberté de perception de l'exécuteur. Comment est-ce qu'on contrôle? Quelles sont les pratiques de contrôle de la justesse, hein? De l'exécution. Bien sûr, j'imagine que ces compositeurs écrivent, laissent des traces écrites, hein, pour orienter justement. Non, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'orienter, de sélectionner, de restreindre les possibilités d'interprétation d'exécution de ces notations?
Directement, l'idée, c'est vraiment écrire une chose, composer une chose, écrire une autre chose et jouer une troisième chose. C'est vraiment de donner un point de départ pour l'improvisation, de l'expérimentation. L'idée, c'est cette ouverture, c'est profiter les propriétés plastiques pour donner une ouverture.
Il faut bien imaginer qu'en plus, toute cette musique a été quand même inventée et faite comme ça, pour justement se débarrasser du contrôle. Donc, c'est vrai que du coup, après...
Oui, justement, il n'y en a plus besoin.
Après qu'il n'y en ait plus besoin, ça, je ne sais pas si ça veut dire ça pour autant. Parce que il y a une question de justesse aussi. C'est-à-dire que si vous exécutez du Bach en regardant ça, après tout, ça peut faire partie des libertés qu'on peut prendre. Et à la fois, ce n'est pas juste non plus. Donc...
Moi, je peux ajouter quelque chose. Moi, pour rejaillir, moi, l'expérience quand même que j'ai eue de certaines partitions graphiques, c'est à l'inverse, c'est pas du tout un film. En fait, quand on regarde, on demande des gens de l'exécuter, c'est justement à l'inverse, ils sont très limités, ils ont énormément de mal à sortir d'un certain nombre de gestes très conventionnels et d'un certain nombre de choses. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans l'infini, etc. Moi, l'expérience que j'ai, c'est là, enfin, jusqu'à maintenant, peut-être qu'il y a des, justement, peut-être c'est dans la représentation graphique où il peut y avoir peut-être quelque chose, mais certaines que j'ai vues, en fait, on est très très contraint, beaucoup plus que, donc il n'y a pas cette, il me semble pas qu'on ait dans l'idée d'avoir d'un seul coup une infinité. Il m'a pas semblé pour un certain nombre de choses. Mais ce que je voulais, c'était revenir moi plutôt au Waiku de Kesh, parce que ça, ce qui me, je crois que je n'avais pas vu, c'est que, comment on passe cette espèce d'accélérando, comment on passe d'un 60, je ne sais plus, un 112 à un 152. Il y a quelque chose, je ne sais pas l'écriture, c'est quelle est la différence là? Est-ce que moi, comment. Je me suis demandé en tant qu'auditeur, enfin, en tant que, comment on peut percevoir, enfin, je ne sais pas si c'est la bonne question, mais je me suis demandé comment, quelle est la différence là, du côté de l'interprète, enfin, voilà, comment cette chose-là je peux la voir, parce qu'il me semble qu'on a quelque chose qui est de l'ordre du continu. Alors, si je passe de 60 à 112 à 152, ça a l'air d'être continu. Et l'impression que j'ai, c'est que ça va m'advenir d'un seul coup. C'est-à-dire que, je me souviens plus comment on l'a fait, mais j'ai l'impression que c'est d'un seul coup qu'il y a un déclenchement. Donc là, il y a quelque chose que je c'est pas vraiment une question, mais voilà, il y a quelque chose que je saisis, que je me demande, qui est interrogative, voilà. Ce passage entre là, il me semble qu'il y a une continuité très très forte là, et que curieusement elle va se transformer peut-être en discontinuité à l'écoute, mais je ne sais pas, voilà. C'est juste ça, parce que je sais que tu les as, moi je les ai écoutés, tu les as, enfin, donc voilà, donc tu as un ressenti qui est peut-être.
Oui, une chose qui je trouve intéressant comme on interprète par exemple ces pièces de ces Seven Haikus de John Cage, parce que il y a la difficulté de lire, parce que les notes sont, ça ressemble un peu à la notation, ça ressemble à la notation conventionnelle, mais dans un premier moment, après, pour arriver à on ne peut pas par exemple avoir une idée avant de jouer. On ne peut pas prendre une partition et nous avons la forme avant de jouer la partition. Ça veut dire que ces notes, elles vont être vraiment le résultat, très proche du résultat de l'acte de jouer. Et comme toutes les partitions ont aussi cette propriété, mais ici, c'est, je pense que c'est très présent, l'idée de concentration extrême pour pouvoir gérer les notes, même si ça semble être plus libre. C'est une sorte de mouvement qui on doit être constamment concentré, très concentré dans ce sens. Oui, même qu'il y a la liberté, ça crée le sens contraire.
Si je peux me permettre, c'est un excellent exemple de voir qu'il y a une vie intérieure qui serait cette pulsation, mais qui est absolument pas audible à personne, en fait. Enfin, qui est vraiment la vie intérieure du musicien, qui est suggérée par la partition, et puis une vie extérieure, enfin, quelque chose qui est produit, qui est stimulé par ça, évidemment, donc il y a effectivement une relation. Mais qu'elle était, ça me fait beaucoup penser au quatuor de Nono, où il y a un texte mais qui n'est pas là pour l'éthique, qui est juste là pour que les instrumentistes aient ce texte-là en tête en jouant. Bon, c'est sûr que ça détermine des choses, et après, c'est très difficile d'en parler, de les analyser. C'est sûr qu'on rentre dans des...
Oui, il y a beaucoup de suggestions avant de partition graphique. Il y a de suggestions sur ce qui on peut, ce qui c'est ce qui peut devenir visible dans la partition, qu'est-ce qu'on peut présenter? Même là, la notation, comme Beethoven, par exemple, qui, l'idée d'écrire quelque chose qui, c'est une, c'est visible, mais en même temps, c'est lié à notre caractère, notre propriété de la musique qui n'est pas exactement la visualité de la notation.
Jusqu'à quand peut-on parler de notation finalement? Parce que, est-ce qu'on ne pourrait pas dire simplement, dans certains cas limites en tout cas, on a simplement une expérience musicale à partir de quelque chose d'autre, comme on peut jouer en suivant plus ou moins par exemple une danse, qui en a promis sur une danse, ou on peut. Sur des univers gustatifs, par exemple, quelque chose qui se fait, voilà ça. Est-ce que ces paysages là, qui sont sur la feuille sont des occasions comme ça de construire la musique ou est-ce que c'est donc des notations? Quand est-ce qu'on passe des notations à l'idée de suggérer quelque chose? C'est-à-dire une forme d'art, mais pas forcément. Un rapport de la musique avec les conventions notationnelles.
Oui, je pense que c'est peut-être cette question que le compositeur se pose parce qu'il y a, ça c'est le cas de la notation visuelle, mais il y a de notation verbale, il y a de notation plastique aussi.
Voilà.
Donc je
suis d'accord sur la notation.
Dans ce que vous avez dit, c'est vrai qu'il y a quand même une hypothèse quelque part, et je trouve que quand Grimas cite MKF pour dire qu'il y a une connivence de forme entre signifiant et signifié, c'est là que ça se passe. Mais évidemment, il y a ce décalage, c'est ça qui est intéressant en fait aussi dans cette histoire. Le signifiant, on peut voir ce que c'est, le signifié, on peut voir ce que c'est, mais ce décalage formel, finalement, c'est ce qui nous reste à étudier quelque part. Comment ça se passe. D'ailleurs, finalement, ce que vous proposez, c'est presque un retour à une espèce, on en parlait toujours, une sorte d'axiomatique, c'est quoi les outils essentiels dans lesquels, et c'est ça, c'est présence-absence, c'est intensité, ça a l'air d'être peu de choses, mais déjà avec ça, on peut dire beaucoup, la partition de l'Ombre ne dit que ça. Présence, absence, intensité, et il y a évidemment autre chose. Bon, l'intensité, c'est le problème de la linéarité, c'est pas peut-être. Il y a la position de l'espace et la lecture du temps, parce qu'il y a aussi ça qui est compliqué dans le rapport entre un visuel et un temporel. Et là, on voit qu'on est en train aussi, tout ce séminaire un peu autour de ça, c'est que c'est cette histoire que maintenant on peut avoir un visuel qui bouge avec le temps. C'est devenu très facile d'avoir ça. Et avoir un visuel. La partition de Holbrand, finalement, on peut en trouver des exemples chez certains vidéastes sonores, enfin, certains vidéastes qui travaillent avec le son. Je pense à quelqu'un comme Antoine Schmidt ou des gens comme ça, où en fait, vous avez cette même partition, sauf que chacun des éléments apparaît et disparaît. C'est-à-dire que le présent-absent qui s'inscrit comme un compte-rendu parce qu'on est dans une image fixe. Devient au contraire déjà quelque chose de mouvant parce qu'il y a un axe de temps qui apparaît à la perpendiculaire de l'espace visuel. Et ça, du coup, c'est vrai que c'est une. À mon avis, c'est ça un des enjeux de ce qu'on travaille. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'axe du temps, il se lit dans la linéarité c'est l'exemple de toutes les partitions traditionnelles. Dans les yeux, ça se lit dans la linéarité, etc. Mais en fait, il y a une progression. Ce qui est frappant aussi, c'est que ça c'est quelque chose que je n'avais pas pensé, mais quand on voit un caractère chinois, quand on n'est pas chinois, on voit ça comme une image fixe. Mais en fait, un chinois, lui, ne le voit pas comme ça. Il le voit comme un ordre de choses qui ont été faites. Donc il y a une temporalité sous-jacente qui est induite. Et c'est ça, c'est un peu fait, le problème de la partition, c'est qu'il y a une temporalité sous-jacente finalement. Mais bon, alors évidemment, si on le voyait tracé, on la verrait cette temporalité. Alors là, on ne le voit pas tracé, mais je pense que c'est cette temporalité-là, elle reste dans l'imaginaire de quelqu'un qui est dans cette culture, parce que là, c'est pareil, moi je ne peux pas la voir, ça, mais je suis sûr que quelqu'un qui est dans la culture a ça. Là, je ne sais pas si quelqu'un aussi mais... suffisamment. Mais...
Oui, je pense que, effectivement, moi je ne suis pas de cette culture, mais la sensation que j'ai quand je vois, par exemple, une scène, par question, je peux imaginer qu'on si l'espace et le temps n'étaient pas de choses séparées. Je perçois ça comme la même chose, espace et temps. Donc peut-être c'est ça aussi. Bon, c'est pour ça que ce que tu dis, c'est très intéressant parce que peut-être nous sommes très dans une mentalité, très une éducation musicale où il y a toujours cette division entre espace et temps. Nous sommes habitués à travailler comme ça la musique. Mais peut-être bah, toute la société dans un point est comme ça. Et peut-être, je pense que c'est intéressant de pouvoir se laisser faire comme ça et entrer dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas.
Moi seulement, si je peux ajouter une petite chose, finalement, que je vais poser relève du fait que selon moi il y a dans la partition graphique les reflets de deux traditions en même temps, c'est-à-dire d'un côté la musique gestuelle finalement, la musique qui cherche à souligner la dramatisation du geste, et donc là il y a l'idée de déconstruire un petit peu la partition en tant que langage instructionnel, hein, parce que là il y a un ensemble de sémantique instructionnelle, on doit suivre pas seulement la linéarité mais un ensemble de syntaxe gestuelle prévue. Et de l'autre côté, la partition graphique semble les reflets aussi de la présence du bruit, hein, du fait qu'il n'y a plus de son seulement déterminé, qu'il y a la citoyenneté pleine de la détermination. Et donc le bruit, les rumeurs ont une densité, on ne peut plus discrétiser, on ne peut plus décider en avance quelles sont les catégories pertinentes de la lecture. On doit explorer le son et dans la densité. Donc je pense qu'il y a un peu une relation intime entre les deux choses. D'un côté, il y a l'idée d'explorer le geste qui va bien au-delà de l'instruction. Et de l'autre côté, il y a le problème d'explorer le son qui va bien au-delà du codage déjà prévu dans la partition. Donc il y a une sorte de couplage entre une sorte d'identité de l'interprétation et de l'autre côté, la densité du son qui ne peut plus rentrer finalement dans une partition classique, hein, traditionnelle. C'est un peu les deux choses en même temps.
Oui.
Si je peux l'ajouter, parce que je me souviens, je ne sais pas si c'est à propos des années, quelque chose qui m'a paru moins important quand on a vu le cours avec Martinus, c'est qu'il y avait, en fait, c'était les partitions comme ça, on les joue avec la partition. C'est-à-dire on les joue pas comme on appelait par cœur. Et elle a expliqué, donc je me souviens plus son explication, et ça me semblait extrêmement important parce que là, on est toujours dans le visuel. C'est-à-dire qu'avant, on apprenait aussi, et finalement, la partie de la vision, elle est peut-être là, mais elle est. Et là, elle nous a expliqué qu'en fait, on joue avec la partition. On est obligé même de jouer avec la partition. Ça en fait même partie quelque part. Il m'a semblé que là, il y avait peut-être aussi quelque chose de la. Enfin, pour elle, en tant que pianiste, en tant que son expérience à elle, il avait passé. Donc il semble aussi qu'il y a quelque chose de là, un rapport qui n'est plus du tout le même aussi avec celui qu'on avait peut-être avant. Voilà. Enfin, je voulais rajouter ça parce que j'avais un peu oublié qu'il y avait ça, puisqu'il y a toujours la présence. Il y a toujours la présence. Enfin, je sais pas si...
Non, mais c'est un peu paradoxe, effectivement.
Parce qu'une fois qu'on a la partition dans la tête, on a déjà une pré-image de... On n'est pas en contact avec ce qui... On ne réalise pas la lecture exactement comme au moment qu'on lit la partition. C'est un autre type peut-être de registre que...
C'est pas le type. Je crois qu'elle a dit, il ne faut pas apprendre par cœur. Enfin, c'était bon, je m'en souviens pas.
Oui, parce qu'en fait, finalement, c'est le paradoxe que les partitions anciennes renvoient à une image sonore qui lui est extérieure et on peut écarter la partition qui est transitoire, alors que là, finalement, il serait génératif.